m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Le livre commence par un prologue. Nous sommes fin 1999. On découvre le héros Alexandre en train de traîner des sacs d'engrais et se demander s'il n'est pas surveillé par les gendarmes. Dans les premières phrases du récit apparaissent les mots détonateur, mortier. Alors on se dit qu'il se prépare quelque chose de mystérieux, de vaguement inquiétant. On ne sait pas exactement quoi, mais la tension est là. Et il faudra attendre les toutes dernières pages pour comprendre. Entre les deux, le récit d'un destin familial et amoureux, un destin rural aussi, dans un pays en pleine transformation, la France des années 70, 80 et 90. Des scènes toujours justes, souvent douces amères, parfois poétiques, parfois absolument hilarantes, qui nous parlent aussi du monde d'aujourd'hui, puisqu'il est question d'écologie et d'agriculture, de ville et de campagne, de progrès et d'inquiétude, d'amour et de violence. Bref, rarement un roman aura aussi bien porté son nom. Nature humaine de Serge Joncourt est paru chez Flammarion, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Serge Joncourt.
Bonjour.
Nous sommes effectivement lorsque débute votre récit en 1999, plus précisément dans les tout derniers jours de 1999, juste avant le fameux passage à l'an 2000. À ce moment-là, en France et dans une bonne partie de l'Europe, ce qui fait l'actualité, c'est la météo, archive du journal de France 2.
Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 27 décembre. 40 morts en France, plus de 80 en Europe. La tempête laisse des traces terribles. Nous le verrons dans nos différents reportages. D'abord en Normandie, à Saint-Pierre-sur-Dives, dans le Calvados. Des villages sont inondés, les maisons sont en grande partie détruites. Nous serons également dans les Vosges, où des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. Nous ferons le point avec Frédéric Dupuis. Lentement, les voies de communication sont rétablies. C'est le cas pour les trains et les avions, qui accusent encore cependant de gros retards. Détail dans quelques instants. À noter que l'autoroute A13 a été rouverte. Attention en Bretagne et en Vendée, la tempête fait de nouveaux rages ce soir, notamment également en Gironde. Et puis Paris, balayé par les vents, les forêts avoisinantes comme beaucoup d'autres en France sont ravagées. C'est aussi une catastrophe écologique.
Vous vous souvenez de ce moment-là, Serge Joncourt?
Oui, ah bah, tout à fait, oui, parce que ça c'était la première finalement, la première tempête. Mmh. Il y a eu deux vagues, on voit une deuxième vague là encore, oui. Et effectivement, moi j'étais à ce moment-là précisément dans le Lot, le sud-ouest, et on regardait ça avec une forme d'appréhension et en même temps de soulagement, en se disant c'est pas passé loin, mais ça n'est pas passé là, quoi.
Oui.
Et je me souviens des images.
Vous avez l'impression d'avoir été un survivant à ce moment-là?
Non, mais en tout cas, je me souviens des images du château de Versailles. Ça devait être dans ce même reportage là. Le château de Versailles, dont le tiers des arbres avait été mis par terre. Enfin, et puis de Paris avec des toits qui tombaient sur les voitures, etc. Ça semblait complètement fou. Mais ce qu'on savait pas, c'est ce qu'il dit un peu Claude Sérillon à la fin.
Voilà. Vous le citez, Claude Sérillon, à plusieurs reprises dans le roman. Il y a les informations et notamment c'est la voix de Claude Sérillon et même la tête, le visage de Claude Sérillon qui porte finalement sur ses traits l'inquiétude qui se propage.
Alors Claude Sérillon, c'est un présentateur qui était naturellement souriant, une sorte de il y a des êtres comme ça souriants d'une façon naturelle, et certains soirs l'apparition de son visage annonçait quelque chose, quoi. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas nécessairement, évidemment, les réseaux sociaux pour savoir avant le JT ce qui allait se passer.
Oui, ni même les chaînes d'infos en continu. Donc, il y avait la grand-messe du 20h. Donc, c'était le moment où les familles se réunissaient devant la télévision et où on découvrait ce qui faisait l'actualité du monde.
Absolument. Là, pour le coup, c'était de l'inédit total. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et le visage de Sérillon, qui était aussi, d'ailleurs, un peu plus tard, en 86 pour Tchernobyl, à nouveau, il avait ce visage verrouillé. Hein. Et là, c'était déjà une sorte d'annonce, quoi, de thermomètre. Il s'est passé quelque chose de grave, quoi.
Et donc là, à la fin de cette année 99, il s'est passé effectivement quelque chose de grave, ce qui veut dire que vous mesurez la petitesse et la faiblesse de l'être humain par rapport à la nature?
Ah bah, disons que moi, on est quand même à 3 jours du réveillon de l'an 2000. Hein, c'est,
voilà.
C'est une sorte de rendez-vous qu'on avait tous en tête depuis des décennies, pour le moins. Mais en tout cas, c'était une sorte de rendez-vous de l'humanité, c'est-à-dire un carrefour quand même. C'est pas rien de passer d'un siècle à l'autre, mais passer d'un millénaire à l'autre, c'est évidemment encore plus rare. Donc, on avait
avec des rêves, avec des fantasmes, avec une image de l'an 2000, de la supramodernité, dont les écrivains s'étaient d'ailleurs nourris, pour beaucoup, le cinéma aussi, évidemment. Et là, on est très très loin de ces rêves.
Eh ben disons que là, en particulier, quand on est, ce qui était mon cas, en famille, dans le Lot, dans un territoire un peu reculé, en tout cas loin de la ville, ce qui s'est passé, c'est que la nuit d'après, hein, ce JT de 20h, eh bien, on a regardé les arbres. Déjà, il y a eu une coupure d'électricité. Et puis après, le temps s'est passé à croiser les doigts ou à prier pour que les sapins ne tombent pas sur la maison et que les platanes tiennent le long des routes. Enfin bon, c'est quand même quelque chose de... Et suite à ça, l'électricité n'ayant pas été remise tout de suite en ce qui nous concerne, le réveillon, le passage au troisième millénaire à l'an 2000, il s'est fait à la bougie. Bon,
ouais, donc c'est un petit clin d'œil du destin, on peut dire ça comme ça.
Une sacrée farce en tout cas. Une prémonition peut-être, enfin comment ne pas, je suis pas particulièrement superstitieux ni, mais enfin quand même une double tempête comme ça qui balayait, parce que bon, c'est attaqué à l'Europe ensuite, hein, l'Allemagne, etc. C'était quand même assez étrange, surtout que on n'y était pas habitué. Il y a des choses un peu comme la canicule de 76, hein, la sécheresse en
oui,
tout cas,
qui est d'ailleurs le premier chapitre du récit qui s'ouvre juste après.
Voilà, oui, finalement ce sont des choses, même les termes de tempête, sécheresse, canicule, d'une certaine façon on s'y est habitué depuis, hein, aujourd'hui en 2020, sont tous les ans quasiment on a une canicule, alors pas une tempête comme Lothar et Martin, mais ça annonçait quelque chose, et finalement c'était révélateur. Enfin, j'ai le sentiment, c'est pour ça, avec le recul. Vous savez, c'est toujours plus facile, évidemment, d'analyser les situations et de porter son regard sur une année. Ce qu'on vit aujourd'hui autour du coronavirus, d'ici 5 ans, quand on jettera un regard, eh bien, évidemment, tout semblera clair, limpide, les décisions seront simples à prendre et ça sera lisible. Quand on est dedans, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, une deuxième tempête, ça veut dire, et pourquoi pas une troisième, enfin je veux dire là...
Alors dans le roman, ce n'est pas la famille Joncourt qui affronte la nature qui se déchaîne, les pannes d'électricité ou de téléphone, c'est Alexandre Fabrier, il est fermier, il est fils de fermier depuis 4 générations, il n'a jamais quitté cette ferme du Lot, la ferme des Bertranges. Ça n'allait pas forcément de soi d'ailleurs qu'il reste là, pour quelle raison il est resté d'ailleurs?
Alors il est le seul garçon, il a 3 sœurs, les 3 sœurs ont... Parce que dans le roman, on repart dans les années 70, hein, leur enfance, d'une certaine façon. Et là, on voit que les 3 sœurs sont attirées par la ville. Hein.
La ville, c'est le rêve, la ville, c'est la modernité, la ville, c'est la liberté.
Oui, d'une certaine façon, oui. Il y a tout ça, alors que la campagne, surtout que c'est une ferme un peu...
Isolée.
Hein, quelque part, c'est moins enviable. Bon, alors... Alexandre est attiré, évidemment, lui aussi, par la ville, mais enfin, avant tout, il est bien dans cet élément-là.
C'est l'homme du devoir, parce que c'est le garçon, il faut qu'il prenne la succession du père?
C'est l'homme du... J'ai cru que vous alliez dire c'est l'homme du dehors, mais parce que je crois que c'est avant tout l'homme du dehors, alors du devoir de fait aussi, mais c'est quelqu'un qui aime cette ville-là. Enfin, moi, j'en suis entouré dans ma famille, qui ne conçoivent pas... Ne pas vivre dehors, enfin, dire, ne pas être...
Oui, mais les sœurs, elles le conçoivent parfaitement, parce que elles vont quitter dans le roman successivement la ferme, et on se rend compte qu'elles l'oublient vite. Elles n'ont pas de difficulté à tourner la page.
Alors ça, on s'en rend compte en particulier quand elles reviennent, et l'attitude qu'elles ont à l'égard des chiens, à l'égard des animaux.
Ce qui fait souffrir les parents d'ailleurs, en particulier la mère qui dit, mais en particulier à Caroline qui est la sœur aînée, elle s'étonne que finalement elle arrive là, elle vient passer la nuit, elle participe aux repas familiaux, mais elle va pas dans la grange.
Elle va pas dans la grange, elle regarde pas vraiment si ça a poussé dans le jardin ou si les vaches vont bien. Oui, oui. Ben oui, parce que d'une certaine façon, elle est passée à autre chose, et puis enfin, peut-être qu'elle a jamais vraiment été non plus concernée par ces choses-là, hein, cet environnement-là. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qui, d'ailleurs, tous les agriculteurs ne vont pas se balader le soir pour faire un tour, quoi. Il y en a qui sont plus dans un dehors plus fonctionnel, et puis il y en a d'autres qui gardent quand même un côté, un regard. Je dirais pas poétique, mais en tout cas un peu admiratif sur tout ça. Alors que les sœurs, non, ce dehors-là ne les intéresse pas vraiment.
Bon, il y a par exemple Vanessa, c'est la sœur cadette, hein, qui est allée à Paris, et qui est devenue à la fois l'assistante et la petite amie d'Edouard, qui roule en Jaguar et qui fait des photos de pub. Et un jour, ils viennent tous les deux à la ferme pour l'utiliser comme décor dans une campagne de pub, donc pour des tranches de jambon sous blister. Il y a plusieurs dialogues extrêmement savoureux, hein, à cette occasion. D'ailleurs, c'est quoi, Serge Joncourt, le secret d'un dialogue savoureux?
Oh, le dialogue savoureux. Bah, écoutez, c'est de l'entendre, de le restituer. C'est un metteur en scène. Moi, je suis un metteur en scène dans ces cas-là. Sinon, je choisis totalement des comédiens. Je peux les réveiller à 2 heures du matin. J'en fais ce que je veux et on répète. Et c'est vraiment, c'est celle-là, j'ai envie de les voir, moi. Et donc, je les recrée à l'écrit. Et en les faisant, je les entends et je les refais, un peu comme on le fait au cinéma. On va la refaire en enlevant ce mot-là ou en faisant une phrase plus courte.
Donc, il faut que ça fonctionne.
C'est pour moi, c'est comme quelque chose de, ça doit venir en relief sous les yeux du lecteur, quoi. Il doit l'entendre lui aussi, ouais.
Donc dialogue savoureux, hein, je reprends le terme, entre Édouard, donc ce fameux photographe parisien, et son beau-père, enfin presque, ils sont pas mariés, mais enfin son quasi-beau-père qui s'appelle Jean et qui est le père d'Alexandre. Nous sommes page 254 du livre.
Vous savez, Édouard, je vous respecte. Grâce à vous, ma fille a un vrai travail. Elle apprend beaucoup de choses et gagne sa vie. Mais vos histoires de jambon plastique, ça me paraît louche.
Pourquoi donc ?
Déjà parce qu'il est rose, votre jambon. À moins d'élever le cochon avec du cassis, un jambon blanc, c'est pas rose. Et puis, pour pouvoir rester des semaines comme ça dans le plastique, il doit être gavé de nitrate, de colorants et d'arômes. En fait, c'est tout sauf simple. Un jambon pareil, c'est tout sauf simple.
Le père était bien placé pour savoir que les choses simples en matière d'élevage, ça devenait de plus en plus compliqué. Déjà parce que les petites boucheries fermaient les unes après les autres depuis que les mammouths et les euromarchés poussaient un peu partout. Et ensuite parce que les gens n'achetaient plus que de la viande pré-emballée en regardant le prix, sans jamais se poser la question de son origine.
Je vais vous dire, Édouard, les choses simples, comme vous dites, c'est bien joli, mais ça n'existe plus. Les bêtes, plus personne ne sait d'où elles viennent, entre les éleveurs de la Nièvre qui envoient les charolaises de l'autre côté de la Méditerranée, avant de les faire revenir une fois engraissées. Les Anglais qui gonflent leurs vaches avec du soja et des farines d'Amérique du Sud. Et ces tonnes de steaks congelés qui se baladent par avion. Aujourd'hui, un beefsteak peut avoir fait 20 000 km avant de se retrouver dans votre assiette. Alors ce monde-là, croyez-moi, il est tout sauf simple.
Mais Jean, c'est le sens de l'histoire. Faut s'ouvrir au monde, regardez vos filles. C'est en bougeant qu'elles ont trouvé du boulot. Même votre fils qui est resté là, il est amoureux d'une Allemande. Dites-vous bien que la mondialisation, c'est ce qui nous rend meilleurs. Pardon de vous dire ça, Jean, mais faut bouger dans la vie, faut bouger. De toute façon, c'est jamais bon de rester dans son coin.
Vous voyez mon chien, là, le roux ? Eh bien, il a un avantage sur les 3 autres.
Ah oui ? Et lequel ?
Il est sourd. Au moins, il n'entend pas vos conneries. Bouger, bouger, mais bon de Dieu, quel sens ça a de bouger ? Maintenant, tout le monde se met à bouger.
Disons que ça ouvre l'esprit.
Ce qui compte, c'est pas de bouger, c'est d'être là.
Sans doute, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Je vais vous dire, ce décor, eh bien, j'en connais tout. Tout. Cette campagne, j'y vis depuis toujours. Ces arbres là-bas, je les connais tous. Rien qu'à les voir, je sens celui qui flanche, celui qui se fait étouffer par le lierre, celui qui a soif, celui qui repousse les autres. Alors, si je me mettais à bouger, moi aussi, tous ces arbres, ces bêtes, ces prés, ce jardin et ces chiens, ils feraient quoi sans moi, hein ? Ils feraient quoi ?
Jean, je voulais juste vous dire que... Enfin, c'est le mouvement de l'histoire.
Ce monde-là, c'est moi qui le porte. Seul, il ne s'en sortirait pas.
D'accord, mais ça n'interdit pas aux autres de voyager.
Bon Dieu, mais aujourd'hui, il faut que tout voyage. Les céréales, les vaches, les téléviseurs, les micro-ondes qui viennent de Hong Kong, les Walkman qui sont made in Taiwan. Et pendant ce temps-là, on vend notre lait aux Chinois. Tout ça se croise dans les airs ou sur les bateaux, c'est n'importe quoi. Vous savez ce qu'elle va donner, votre manie de la bougeotte, hein ? Vous savez ce qu'elle va m'amener à moi ? Comme à mes arbres, à mes poules et à mes chiens ?
Non, je ne sais pas.
Une autoroute.
Voilà, et les débats autour de l'autoroute vont faire rage, hein, dans la région. Il y a un bistrot du coin qui était sur le déclin et qui va pouvoir, Serge Joncourt, retrouver une nouvelle jeunesse, justement, en accueillant justement des débats. Dans ce dialogue qu'on vient d'entendre, Serge Joncourt, au fond, c'est un dialogue entre deux générations ou c'est un dialogue entre un rural et un citadin ?
Là, c'est les années 80, hein, donc c'est un peu la publicité est reine, ces slogans qu'on avait tous en tête à l'époque, hein, la SNCF, c'est possible, un verre ça va, trois verres le bonjour, les dégâts. Enfin, il y a toute une culture. Ticket chic, ticket choc, ça me revient comme ça, ouais. Vous en parlez. Mais enfin bon, c'était très étrange quand même. La publicité nous avait envahi, colonisé, et en même temps, on était fascinés par ça. Hein. Et donc, sur les jambons en particulier, on nous vendait l'idée de la simplicité.
Et de l'authenticité.
Et de l'authenticité, c'est venu après, l'authenticité, la simplicité d'abord. Oui, d'une certaine façon, vous avez raison, on essayait de... Le naturel, on n'osait pas trop employer le mot. Hein. Mmh. Et en fait, on pouvait y croire, parce que d'ailleurs, les spots de publicité autour de ce jambon, c'était une petite rivière qui coule dans un sous-bois, un gamin qui joue, tout ça. Oui, c'était propre, c'était pur, c'était simple. Mais en fait, ce qu'on voyait pas, c'est que c'était... Ça voulait dire tout le contraire, si on lisait un peu l'étiquette. Donc il y a aussi celui qui, en plus d'un conflit de génération, il y a celui qui sait ce qu'il y a dedans. Il y a tout simplement celui qui sait ce que c'est qu'un cochon et comment on fait un jambon, quoi. Parce que finalement, on ne sait pas tous comment on fait un jambon, avec les trois noix de jambon qu'il faut dissocier, etc. On sait, en fait, oui, voilà, c'est, il y a un moment, je me souviens dans ces années-là, on parlait d'un reportage qu'on avait fait auprès des écoles, des enfants dans les cantines qui pensaient que les poissons naissaient carrés.
Oui.
Avec de la chapelure, bon. C'est-à-dire qu'on a perdu, oui, c'est les années où on perd le contact avec la nature.
Alors donc, il y a effectivement ce contact perdu avec la nature qui est un petit peu la rançon de l'arrivée de la modernité. Vous racontez, hein, dans tout le roman, l'arrivée du téléphone, l'entrée dans la société de consommation aussi, les pubs, on en a parlé, l'électroménager, la grande distribution aussi. Alors là, on est dans les années 70, hein, les années Giscard. Et là aussi, c'est assez savoureux avec le regard d'aujourd'hui. Mais pour la famille, aller à l'hypermarché du coin, c'est un événement, quoi. C'est un vrai plaisir familial.
Voilà. Alors, en plus, il s'appelait le mammouth, à l'époque. Un mammouth, ça voulait tout dire, rien que dans l'appellation. Façon d'occuper le terrain, de tout écraser. Mais en même temps, c'était un univers totalement inédit parce que il y faisait frais, c'était climatisé. L'été, une couleur constante, enfin, une lumière constante. Et surtout, c'était lisse et, ça, c'est assez surprenant quand on vit un temps, ou comme eux, toujours à la campagne, sur des chemins caillouteux et des cours à gravier. Le sentiment de marcher sur du lisse, c'est comme quelque chose d'inédit, quoi. Et ça, c'est ce qui marque Alexandre en particulier. Et après, il y a cette offre, ces pléthores. Alors, ça coïncide avec la canicule, la sécheresse, en tout cas. Et il y a l'apparition des ventilateurs Calor en promotion. Ce qui voulait dire quand même que, bon... Il fait chaud peut-être, mais il y aura une solution. Enfin bon, on aménageait un peu comme ça l'environnement. Mais les hypermarchés, les premiers hypermarchés, il faut bien se dire que c'était quand même très spectaculaire.
Oui, et c'est vrai qu'on est partagé, enfin la famille Fabrier est partagée entre l'émerveillement de la nouveauté et l'inquiétude aussi. Parce que quand c'est nouveau, on se dit, bon ben voilà, c'est super, mais comment est-ce que ça va évoluer? Surtout quand la grande distribution a aussi un rôle dans la tenue de la ferme, dans la tenue de l'élevage, quand on fait de la vache en particulier, de la vache à viande.
Oui, parce que ce qu'on voit bien aussi, c'est que il y a des bouchers qui commencent à fermer et que finalement on a des interlocuteurs en tant que producteurs qui sont tout autres, quoi. Et à partir de là, avec des propositions.
Oui. Donc, est-ce qu'il faut produire pour la grande consommation et qu'est-ce que ça implique?
Voilà. Et le recul, il semble évident aujourd'hui qu'il fallait le prendre, ce recul. On l'a pris, mais avec du retard. Mais dans un premier temps, on y est allé tous, finalement, quand même. Hein. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, des magasins de producteurs, des choses comme ça, ou même des agriculteurs qui vendent à la ferme, hein, tout ça, c'était pas pensable dans les années 80-90, où il fallait se projeter, au contraire, vers toujours plus puis d'une viande bien rouge qui brillait sous les néons. Enfin, voilà, c'est ça qu'il fallait faire.
Oui, d'ailleurs, j'ai appris en lisant votre livre que, alors ça, j'imagine que vous avez vérifié, mais plus la viande a l'air belle, bien rouge, et finalement, moins elle est bonne.
Bah oui, parce que une viande, il faut que ça ait un petit peu de gras quand même, quoi. Et c'est de fait... Les vaches laitières qu'on a engraissées, c'est pas les plus valeureuses, très franchement, et c'est pas les meilleures, mais ça va être les plus belles une fois découpées. Et avec ce qu'il faut se dire, c'est qu'un peu comme dans un studio de radio ou de télé, l'éclairage est bien étudié pour que ça brille, quoi. Et c'est terrible, mais si la viande... Oui, mais ça, c'est comme l'histoire du jambon. Il était rose, ce jambon, et on a considéré que c'était... Parce que c'était rose, c'était appétissant, c'était meilleur. C'est toutes ces années-là où on prend la mauvaise voie, quoi.
Ouais, et c'est vrai qu'on se rend compte très vite, nous lecteurs, que finalement tous les débats écologiques liés à la santé, liés au respect de l'environnement, qui sont les nôtres aujourd'hui en Europe, eh bien, ils sont nés finalement à cette période-là, quoi. Le ver est dans le fruit dès les années 70-80, parce que vous évoquez le scandale du Vosormone, il y a les farines animales qui pointent le bout de leur nez avec la vache folle, on pourrait peut-être prolonger aujourd'hui avec le glyphosate et les néonicotinoïdes, quoi. Tout ça, c'est dans la même continuité.
Ah bah complètement, oui. D'ailleurs, bon bah l'épisode de la vache folle, on l'a un peu oublié, mais enfin on s'est fait très très peur aussi là, hein, sur le la sensation de on aurait pu tous potentiellement attraper l'encéphalite, enfin le SB, en mangeant simplement un steak. Enfin il y a un moment la panique était forte. Hein,
mais ça a l'air très loin aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on a tiré les leçons justement de ces différents scandales?
Alors sur les farines animales, il semblerait quand même quoi. Hein. Disons qu'on ne nourrit plus les vaches avec des cadavres de moutons, quoi. Mais à tout le moins, enfin, pour le peu que j'en sache. Hein. Mais il n'empêche que, bah, à tout moment, on redécouvre. Oui, alors maintenant, c'est les OGM, les maïs transgéniques, les tourteaux de soja qui traversent l'Atlantique.
Oui. Est-ce que le monde est devenu fou?
Ce qu'on perd un peu de vue quand même, c'est que la vache est un herbivore, quoi.
Hein. Oui. Le monde est devenu fou. Sargeoncourt, une folie, l'empoison de la folie qui s'est instillée au sein de la société.
L'emballement, mais on a tous participé, on y a tous consenti à cet emballement. Il y a un moment où, là, ça nous amène à une actualité où on est un peu sur un mode pause. On l'a été de façon très concrète, mais on l'est un peu, quand même, un peu suspendu. Hein. Une sorte d'avenir indécis, on ne sait pas trop ce qui nous attend, quoi. Mais il n'empêche qu'il y a des signaux, évidemment sur le climat, sur la nourriture, tout ça, ça commence dans ces années-là, hein. C'est très, très concrètement les années 70-80. C'est pour ça que ça m'intéressait de porter un regard sur ces années-là en particulier.
Mais alors au moment du confinement, beaucoup d'intellectuels se sont penchés sur ce que certains ont appelé le monde d'après. Et beaucoup d'entre eux, peut-être plus d'ailleurs des citadins que des ruraux, expliquaient que pour eux, le monde d'après, ce serait justement un monde des circuits courts, un monde où on fait attention, où on voyage moins, un monde où on fait attention à ce qu'on mange, à ce qui pollue, etc. Vous y croyez, vous, un vrai changement au monde d'après, suite à cette crise du virus qu'on attend tous avec impatience?
Je crois à une prise de conscience à tout moment, on est rattrapé. Mais même d'un point de vue très personnel, on est rattrapé par le fait de se dire tiens, peut-être que je fume trop, peut-être que je mange trop, peut-être que je fume cette chaise sur laquelle je travaille, je suis mal assis, ou cette position dans laquelle je travaille, c'est pour ça que j'ai une lordose. Enfin, il y a un moment où il y a une prise de conscience. Et pour ça, ça suppose de s'arrêter un peu et de réfléchir à nos modes de vie. Et c'est ce qu'on fait d'une façon obligatoire. Et c'est d'ailleurs ce qui requalifie un peu Alexandre. Ce personnage qui est finalement, il y a un an, ce personnage aurait pu se dire il est passéiste, un peu réactionnaire,
oui.
Et pour tout dire ringard. Et en fin de compte, on s'est tous mis à l'envier pendant les mois de confinement. En tout cas, je pense qu'on rêvait tous plus ou moins d'avoir un champ ouvert, des champs ouverts autour de soi, un chemin dégagé sans personne autour. Et en tout cas, ça a requalifié cette distance quand même phénoménale qu'il y a entre la ville. Et la campagne, qui est quand même une des choses qui m'intéresse là-dedans, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, la ville, très concrètement, à Paris, ça a changé. Enfin, les cafés sont dehors, les gens mangent dehors, tout le monde vit dehors. Enfin, bon, je sais pas jusqu'à quand ça durera. Physiquement, on sent que ça a changé. Il y a des vélos partout, il y a moins de voitures. Alors que vous allez au Bertrange, ça n'a pas changé, c'est intact, quoi.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec le romancier Serge Joncourt qui publie Nature humaine chez Flammarion. Alors il y en a un qui voit d'un mauvais œil le modernisme et ce qu'on appelle le progrès, c'est le père Cressac dans votre roman. Alors Cressac, c'est le voisin des Bertranges. C'est un vieux fou, je crois que l'expression est utilisée un petit peu dans la région. On le tient un peu à distance. En fait, c'est une sorte de Cassandre avec une faucille et un marteau. Un Cassandre rouge.
Oui, alors c'est le personnage. Alors c'est aussi il monte sur le Larzac, comme on disait à l'époque.
Ça, voilà, un combattant du Larzac, donc il s'est battu contre l'implantation de ce fameux camp militaire. C'est une des luttes majeures en France dans les années 70.
70, voilà. Et en même temps, c'est de ces personnages qu'on peut retrouver aujourd'hui qui sont d'une certaine façon contre le progrès, disons-le, quoi. Et ça existait pour l'avoir connu, oui. Alors, il s'appelait pas Cressac, évidemment, mais un voisin qui était opposé au téléphone, le voisin de ma grand-mère, qui ne voulait pas qu'on fasse passer des poteaux téléphoniques.
Avec quel argument?
Avec l'argument que j'ai repris dans le livre de l'arsenic. Ces poteaux de pain étaient traités à l'arsenic, comme l'étaient plus ou moins les traverses de chemin de fer. ça voulait dire que ce serait imputrescible et en même temps cet arsenic allait infuser dans la terre. Alors il y a des choses dont on se dit sur le coup il est complètement fou, et puis parfois avec 10 ans, 20 ans de recul, on se demande s'il n'avait pas un peu raison.
Voilà. En tout cas, Cassandre avait raison.
Eh ben, ce qui est sûr, c'est que ces poteaux, ils ont été plantés il y a maintenant plus de 40 ans. Ils sont encore plus intacts que les poteaux en béton de l'EDF, qui eux commencent à s'abîmer. C'est-à-dire que ce pain, ils ont dû quand même sacrément le traiter. Quoi.
Alors régulièrement, Alexandre va rendre visite à Cressac et ils discutent. Et Cressac lui conseille de ne pas fouséguer. Alors moi j'ai appris le mot fouséguer, c'est un mot du sud-ouest, hein. Ça veut dire de pas fourrer son nez dans les activités des antinucléaires. Et au passage on apprend, ou on se souvient, qu'il y a une vraie différence en France entre ce qu'on appelle les gauchistes, ou l'ultra-gauche on va dire, et les communistes, en particulier sur cette question du nucléaire. On a peut-être tendance à l'oublier ça d'ailleurs aujourd'hui, Serge Joncourt.
Oui, alors ça permet de remettre un peu en scène des acteurs de l'époque, quoi, et y compris d'ailleurs ce mouvement anti-nucléaire, qui, d'une certaine façon, alors c'était plutôt du côté des gauchistes ou des anards, et ce qu'on appelait d'une façon large des activistes, ils avaient malgré tout ça en commun avec Cressac, c'est de refuser une certaine idée du progrès qu'on nous proposait, quoi. Et finalement, alors qu'on peut se dire que là, Cressac, lui aussi, refusant le progrès, va refuser les centrales.
Eh ben non.
Eh ben non. Et voilà, les raisons sont dans le
livre. Voilà, les raisons sont dans le livre. Et donc, il lui dit, Cressac, bon, tu vas pas fouséguer, donc là où il faut pas, sauf qu'Alexandre est amoureux. Et donc, Alexandre va fouséguer pour le bonheur d'une fille, il va faire une connerie, hein, c'est l'expression c'est le mot qu'il utilise lui-même, c'est le mot que vous mettez évidemment sous votre plume, et cette fille, c'est Constanze. Le nom l'indique, c'est une Allemande, une grande blonde venue de Leipzig. Alors Leipzig, c'est en Allemagne, mais à l'époque, il y avait deux Allemagnes. Hein, donc c'est l'Allemagne de l'Est communiste. Donc allemande, citadine, venue d'un pays de l'Est, de l'autre côté du rideau de fer, intellectuelle. C'est pas du tout le même monde qu'Alexandre.
Non, pas du tout. Voilà, c'est... Alors Alexandre... La rencontre au travers de ses sœurs, on l'aura compris, en allant, en raccompagnant sa grande sœur le dimanche soir. Et là, au travers de soirées, s'ouvre tout un monde pour lui, totalement inédit. Et il va s'intéresser à cette fille. Et les amis ou les copains de cette fille vont s'intéresser à lui, Alexandre,
pour la simple et bonne raison. Et l'amener à faire une connerie, voilà.
Oui, mais alors, c'est, voilà, la simple et bonne raison qu'il est agriculteur et que donc il a accès aux engrais, aux ammonitrates et qui sont, on l'a compris récemment, des explosifs très très puissants et très voilà. Très très largement répandus. Ouais,
utilisés. On a vu avec ce qui s'est passé à Beyrouth, effectivement.
Voilà, avec du nitrate d'ammonium, où il y avait 3700 tonnes de nitrate d'ammonium stockées sur le port, en pleine ville, en plein centre-ville, qui stagnait là depuis 6 ans, ce qui est complètement hallucinant. Et cette chose dont on sait dans les fermes que cet ammonitrate, il faut pas fumer à côté, il faut pas que la foudre tombe dessus, et des tas de précautions un peu délirantes, comme pourrait dire le père Cressac, hein, fais pas ci, fais pas ça. Il n'empêche que là, vraiment, il fallait pas déconner avec ça. Et donc Alexandre va devenir un peu, en tout cas, va leur passer quelques brassées d'engrais pour qu'ils en fassent,
voilà,
des explosifs.
Voilà, tout ça pour se rapprocher donc de cette fameuse Constanze qui, elle, est pas particulièrement violente. Hein, elle est un petit peu en marge de tout ça. Nous sommes page 145 de votre roman, Serge Joncourt.
La pénombre gagnait tout. Constanze était si belle, pensa Alexandre. Il aimait ses paroles, sa voix, l'accent qui animait son sourire. Même quand elle ne parlait pas, sa grande bouche dessinait un large contentement universel. Un sourire permanent. Ils ne se regardaient pas, ne se cherchaient même pas des yeux, et s'ils se prirent la main, s'ils eurent tous les deux au même moment le même réflexe, c'était moins pour se saisir que pour se rassurer. Parce que, à partir de cet instant-là, ils ne furent plus très sûrs de rien. Même s'il faisait réellement froid ou pas, tout devint incertain, comme si l'enfance ou l'adolescence venait de les rejeter là, de les projeter sur la plage ultime de l'innocence, celle depuis laquelle on embarque enfin vers sa vie, mais sans vraiment savoir laquelle. S'ils se prirent la main, c'est qu'ils venaient tous deux de tomber de haut. Tous deux, sans rien dire. Ils ruminaient leurs liens, tout ce qui les empêchait d'être réellement libres. Elle qui se sentait appelée par d'autres pays pour sans cesse fuir le sien, et lui qui se sentait viscéralement attaché à sa terre. Ils continuèrent à se tenir la main, serrant de plus en plus fort. Ils pactisaient sans un mot, comme s'ils se résolvaient à ne pas se plier à l'ordre des choses. Il faudrait se battre pour que tout soit autrement. Se battre non plus seulement contre des centrales nucléaires, mais également pour soi. Se battre très égoïstement contre cette vie déjà toute tracée. Tout couple était une révolte.
Tu sais, je n'ai jamais vu la nuit comme ça.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
La nuit totale, le noir. La nuit, je l'ai toujours vue par morceaux, et toujours dans la lumière des villes. Mais jamais en grand comme ici. Jamais en entier.
Voilà, un des plus beaux passages du livre pour moi, Serge Joncourt. Étonnant de voir comment des êtres aussi différents, qui n'avaient rien pour se rencontrer, puissent se retrouver comme ça dans cette sorte de communion devant l'obscurité de la nuit, devant la nature.
Oui, parce que pour elle, d'une certaine façon, c'est la première fois qu'ils vont passer une nuit à la belle étoile. Hein, d'ailleurs, elle découvre l'expression et n'ayant vu la nuit qu'en ville, oui, ça c'est quand même... pourtant, ils ont le même âge, enfin, ils sont du même continent. Et il n'empêche qu'il y a cette distance-là, alors qu'il existe toujours entre les citadins et les ruraux, on pourrait dire. Mais là, en plus, il y avait cette frontière définitive qui était le mur de Berlin. Et ces deux Europes, cette Europe, ce monde coupé en deux, quoi, qui est quand même quelque chose de totalement fou et en même temps de pas si vieux, quoi. Ça, c'est moi, j'en suis toujours pas revenu de cette histoire, quoi. Donc, je voulais les mettre en scène, ces deux-là, se retrouvant, et aussi parce que je pars d'un souvenir personnel. Enfin, cette rencontre m'est un peu arrivée, moi. Enfin, ah oui. Elle m'est arrivée, c'est-à-dire que j'ai rencontré.
Il y a eu une Constanze pour Serge Joncourt.
Voilà. Alors, le problème, c'est qu'elle avait un prénom français, parce que son père trouvait ça plus chic d'avoir un prénom français. Donc, j'ai changé le prénom. Mais il n'empêche que, voilà, quand j'allais la rejoindre de l'autre côté à Alexanderplatz, c'est-à-dire à Berlin-Est, pour le coup, là, c'est moi qui découvrais un tout autre univers. Une grande ville avec très peu éclairé.
Oui, donc là on est dans la situation inversée de ce que l'on vient d'entendre.
Oui, oui, oui. Là, moi, c'est ça.
Parce que là, dans le livre, on a vraiment l'impression finalement, et c'est un vrai paradoxe, quoi. C'est-à-dire que c'est la citadine qui, par sa façon d'appréhender la nature, révèle la beauté du paysage, la beauté de la situation à celui qui vit en permanence dedans.
Oui, et surtout ce qu'elle lui dit à un moment, c'est qu'elle a le sentiment que tout ça est là de toute éternité.
Elle fait changer le regard d'Alexandre sur le monde qui l'entoure, sur le paysage,
cette nature,
sur la nature,
sphère,
sur la campagne.
Protégée et éternelle. Et là aussi, notre regard a changé par rapport à ces années-là, dans la mesure où quand on voit aujourd'hui, en tout cas moi, pour connaître ces paysages dont il est question dans le livre et pour les fréquenter depuis des décennies, je les vois changer malgré tout. Et ça, c'est une découverte, c'est un peu ce qui m'a donné envie, l'idée de faire ce livre. C'est-à-dire que cette nature, moi j'ai vu, je suis pas le seul, tous les buis, hein, par exemple, ont crevé en France, là, il y a 2-3 ans. Imaginez s'il se passe la même chose avec les chênes, c'est quelque chose de totalement affolant. Donc cette nature, Constanze la voit comme une sorte de territoire protégé de toute éternité, qui est inaltérable. Et en fait, c'est pas du tout ça la réalité. C'est très fragile tout ça.
Il y a une relation très très particulière entre Constanze et Alexandre, à la fois très proche et très distante d'une certaine façon. C'est assez étonnant. On va pas tout raconter, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment par petites touches que les choses évoluent. Il y a juste une phrase que je voudrais que vous commentiez. Il attend un coup de fil de Constanze, hein, Alexandre. Alors c'est quelque chose qui est arrivé à peu près à tous les garçons amoureux, hein, d'attendre que la fille qu'ils aiment appelle. Elle finit par le faire et il dit ceci. C'était miraculeux qu'elle ait appelé. Et en même temps, ça aurait été 1000 fois plus simple qu'elle ne le fasse jamais. En fait, toute la relation entre les deux personnages est résumée dans cette phrase, Serge Joncourt.
Oui, tout à fait. Surtout qu'il faut quand même préciser par rapport au coup de fil, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, évidemment.
Voilà.
Et que pour atteindre quelqu'un, encore fallait-il qu'il soit précisément là au moment où ça allait sonner. Et donc, d'une certaine façon, on pouvait se dire que quand on n'est pas là auprès du téléphone, peut-être que ça avait sonné, que l'autre... Enfin bon, ça ouvrait comme ça. Il y avait de quoi devenir fou, quoi. Ça ouvrait un champ d'hypothèses infini. Alors que, aujourd'hui, si quelqu'un cherche à vous joindre, ou si vous voulez joindre quelqu'un, ça se fait immédiatement, quoi. Là, il y avait encore cette part d'inconnu, d'incertitude. Et ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est de les suivre tous les deux et de faire une sorte de relation, d'histoire d'amour entre deux personnages qui se voient finalement assez peu. Et de quelle façon cette histoire se prolonge, se nourrit, se réalimente.
Breakfast in America, Super Tramp dans VMDN sur RFI avec Serge Joncourt pour son roman Nature humaine chez Flammarion. Et dans vos pages, on écoute hein, Super Tramp. On écoute beaucoup de musique d'ailleurs. Il y a Pink Floyd, Simon et Garfunkel, Michel Sardou, Nash & Young ou encore Plastic Bertrand. Alors je laisse les auditeurs et les lecteurs découvrir comment vous présentez Plastic Bertrand. C'est assez croquignolesque. La chanson Serge Joncourt, pour l'écrivain que vous êtes, c'est un bon moyen comme ça de plonger les lecteurs dans une époque, dans une société.
Il y a quand même une puissance d'évocation à réécouter tel titre ou tel titre. Alors ça, c'est fou quand même. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Il y a vraiment des titres qu'on écoutait il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, oui, et qu'on écoutait beaucoup abondamment, et qui évidemment nous replongent pour des raisons personnelles. Et puis il y en a d'autres qui replongent dans une couleur, quoi. Sardou, oui, c'est vrai. Plastic Bertrand, alors c'est... J'ai choisi un Plastic Bertrand bien particulier, oui. C'est passant à midi première à l'émission de Daniel Gilbert, qui était l'émission de variété là, le midi.
Et alors, les années Giscard aussi.
Les années Giscard et Plastic Bertrand, quand même, vu du... Pour les parents d'Alexandre, c'est quand même quelque chose d'être très étrange. Est-ce qu'il chante vraiment? Enfin bon, il y avait ce discours-là à l'époque.
Mais en plus, c'était l'époque du playback hein, aussi.
Bien évidemment. Et puis d'une sorte de technologie, d'incursion de la technologie dans la mélodie. Enfin, tout ça.
Ça plane pour moi, Plastic Bertrand.
Hein. En plus, oui, c'était ça le titre. Alors ça enchante les gamines, les petites sœurs, quoi. Et donc là, les parents sentent bien qu'il y a un fossé de génération. Et quand le père met plus fort la radio quand c'est Michel Sardou qui passe. Alors là, bon ben, finalement pour les sœurs, c'est pas possible, c'est discret. Même si la chanson que j'ai mis en scène, c'est le Ne m'appelez plus jamais France, qui était une chanson assez. Qui a un peu fédéré.
Même applaudi par les militants de la CGT. C'était une chanson parce que, justement, on accusait, enfin, la CGT communiste accusait la France d'avoir largué, dans tous les sens du terme, le paquebot France, d'avoir abandonné, justement, la classe ouvrière à travers ce...
Voilà, alors il n'y a pas eu de chanson pour le Concorde après, crois pas. Michel Sardou n'a pas fait, mais c'est un peu la même idée, ouais.
Voilà, donc vous faites le lien, d'ailleurs vous-même, Serge Joncourt, entre la chanson et la télévision à travers Midi Première et l'émission de Daniel Gilbert. C'est vrai que, et on entendait Claude Sérillon au début de cette émission, il y a beaucoup de chansons dans le livre et il y a aussi beaucoup d'extraits ou de références aux programmes de télévision. Il y a les journaux télévisés, il y a aussi les feuilletons, il y a aussi les séries, il y a des émissions de variété aussi. Ce sont des marqueurs importants.
Ah oui, oui, ben ça, oui, c'est vrai, je l'avais peut-être pas remarqué moi-même, mais enfin, oui, c'est des marqueurs. Alors évidemment, il y a le JT, c'est aussi au travers de l'angle de l'information qu'il révèle, hein, quand c'est Tchernobyl ou la tempête de 99 ou des choses comme ça. J'aurais pu mettre la Coupe du Monde 98. Enfin, il y a des choses. Ce qui m'intéresse aussi, c'est quand d'une certaine façon, la communauté France, on va dire, a le sentiment de vivre la même émotion, hein, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Ouais. Mais il y a des moments comme ça, on est rassemblés. On pourrait même dire l'humanité rassemblée dans la même sensation, la même peur ou la même... Et ça, ce sont des choses qui arrivent, qu'on vit un peu d'ailleurs en ce moment, et qui sont quand même des choses d'assez rares. Et puis il y a des choses plus infimes, oui, Plastique Bertrand à midi première, ou l'élection de François Mitterrand. Enfin, plus infime, pardon.
Ouais, alors ça, c'est pas infime. Enfin, attends, oui, alors c'est intéressant. D'ailleurs, je sais pas si c'est un lapsus ou pas, parce que c'est vrai que c'est un point d'orgue dans l'actualité politique, évidemment, du roman, mais aussi de l'actualité politique française tout court. Hein. C'est quand même la première fois sous la cinquième République en 1981 que la gauche arrive au pouvoir, et Caroline, donc la sœur aînée d'Alexandre, la première à être partie à la ville, celle qui est allée à Toulouse dans un premier temps et qui après est devenue enseignante, presque comme par hasard d'ailleurs, est une militante socialiste, une militante mitterrandiste extrêmement extrêmement active. Et le militantisme, c'est aussi l'un des thèmes. Il y en a beaucoup dans ce roman, hein, mais c'est l'un des thèmes que vous creusez aussi. Il y a cette phrase d'ailleurs que vous écrivez, « Militer, c'est tout faire pour ne pas être seul, c'est de l'égoïsme confraternel.
» Oui, 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 ben, oui, parce que là, alors, Lance Caroline, elle est militante socialiste. C'est plus apaisé quand même que les activistes antinucléaires, hein, bon. Et puis là, pour le coup, il y avait un projet très concret qui était l'élection de François Mitterrand
qui allait changer la vie.
Qui allait changer la vie, je crois que c'était le slogan. Vous allez changer la vie. Enfin, ben, c'est ça, oui. Donc là, quand même, c'était pas rien, sachant que pour d'autres, ceux qui n'allaient pas voter Mitterrand, l'avènement de Mitterrand, ce serait passer du côté du Bloc de l'Est. Enfin, ça semble un peu fou aujourd'hui, mais il n'empêche qu'à ce moment-là, juste après l'élection de Mitterrand, il y en a qui se sont mis à avoir peur de voir les chars russes défiler pour le 14 juillet sur les Champs-Élysées, et puis des valises d'argent qui partaient en Suisse. Enfin bon, donc c'était pas rien cette histoire. Et l'anecdotique par rapport à la télé, c'est ce soir de l'élection où l'écran affiche, on ne sait pas où Giscard, où Mitterrand. Et le problème, c'est qu'ils commencent par le haut, qu'ils sont chauves tous les deux. Finalement, pendant 3 secondes, la France ne savait pas si elle était devenue giscardienne ou mitterrandienne. Et puis, alors, il y a eu une sorte de, évidemment, de basculement dans la joie. Alors, moi, le regard qui m'intéressait, c'est parce que j'ai vécu ça, et aussi la Coupe du Monde 98, à la campagne, c'est-à-dire, à partir du moment où, effectivement, c'est l'extase, c'est la victoire, je sors dehors, il n'y a personne. Moi, c'est ça aussi que je voulais montrer. C'est parce que ça se passe aussi comme ça. Il n'y a pas uniquement... Ce qu'en retiennent les télés à ce moment-là, c'est l'exaltation de joie dans les villes, les Champs-Élysées, etc. Alors que ça montrait la joie ou la détresse... Ce mai 81 là, du côté du monde rural, encore une fois. Parce que, il y a, pour moi, cette double, il y a le monde rural et il y a le monde citadin. De la même façon qu'il y a le mondial et le local. Enfin, il y a quand même, comme ça, une sorte de dichotomie à laquelle on ne peut pas échapper.
Ouais. Et en même temps, vous jouez en permanence, donc, avec cet effet miroir, justement, entre les deux, avec effectivement, parfois, des lignes de fuite et au contraire, parfois, des lignes de rencontre. Et c'est ce qui fait, effectivement, toute la beauté de ce roman. Merci infiniment, Serge Joncourt, d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Nature humaine, est paru, je le rappelle, aux éditions Flammarion.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
En 2018, on vous en avait parlé dans cette émission, une grande exposition dédiée au symbolisme balte était organisée à Paris, au musée d'Orsay. 2 ans après, les tableaux sont arrivés en Lituanie, après avoir été montrés à Tallinn, en Estonie, puis à Vilnius, jusqu'au mois d'octobre, avant de partir pour Riga, en Lettonie. Une tournée balte importante pour le public local, car pour la première fois, des tableaux fondateurs de l'identité des 3 pays sont exposés ensemble. Reportage pour VMDN de notre correspondante en Lituanie, Marielle Vituro.
C'est le visage d'une jeune paysanne vêtue de noir qui accueille les visiteurs. Elle est au premier plan devant un champ de blé et un homme qui fauche. Le ciel est bleu, mais l'orage semble menacé. La jeune fille regarde l'avenir droit dans les yeux. Qui l'a peinte ? Ginta Gerardé, du Musée national de Lettonie.
C'est notre artiste letton, Johannes Walters. C'est vraiment comme l'identité pour toute l'exposition. Et bien sûr, c'est le temps de notre construction de l'identité nationale. Tous les artistes sont présents.
Les âmes sauvages, le titre de l'exposition, offre une plongée dans le symbolisme au tournant du XXe siècle. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie n'existent pas encore comme État, mais dans l'Empire tsariste, les consciences se réveillent. Le travail des peintres a été déterminant dans l'émergence d'une identité nationale. Lolita Jablonskienė, directrice de la Galerie nationale d'art, à Vilnius.
Les artistes qui ont créé au début du XXe siècle appartiennent à la génération qui a posé sur la toile la vision d'une Estonie, d'une Lettonie et d'une Lituanie indépendante. On peut prendre en exemple les tableaux qui représentent le mythe du fils de Kalev. Ils ont aidé les Estoniens à trouver leur héros qui a permis leur affirmation politique. La collecte du folklore et des traditions populaires a servi pour créer une nouvelle image balte et fonder l'identité des pays nouvellement indépendants.
En Estonie, plus de 400 000 visiteurs sont allés voir les âmes sauvages. L'estampille Musée d'Orsay a lancé le succès de cette exposition localement. Il a même fallu réimprimer le catalogue. Pour Lolita Jablonskienė, cette exposition restera dans l'histoire de l'art des trois pays baltes.
On a toujours eu jusqu'à présent l'habitude de bien faire la distinction entre l'art estonien, letton et lituanien. Mais il me semble que pour un lituanien du XXIe siècle, il est très important aujourd'hui de voir des tableaux que l'on connaît par cœur dans un contexte national, non pas uniquement comme des œuvres lituaniennes, mais de voir qu'elles s'inscrivent dans la culture européenne.
En exposant dans leur pays respectif, chaque pays a donné une touche personnelle à l'exposition. Ginta Gerardi.
Chaque musée peut faire la version nationale. Chez nous, bien sûr, ce sera les paysages très importants pour la Lettonie.
Ces 10 dernières années, les musées baltes ont connu une véritable révolution. L'Estonie a construit de toutes pièces son nouveau musée d'art, le Kumu. La Lituanie a rénové l'ancien musée de la Révolution pour le transformer en galerie nationale d'art. Et la Lettonie vient de rouvrir son musée d'art, rénové et modernisé. Cette modernisation a transformé la place des musées dans la région balte. Sirje Elme, directrice du Kumu.
La compréhension par le public du rôle d'un musée pour la culture a radicalement changé. Le nombre de visiteurs ne fait qu'augmenter. Le musée sert à conserver la mémoire, mais aussi donne les clés pour voir les choses sous un autre angle. D'ailleurs, sans ces nouveaux locaux adaptés, nous n'aurions jamais pu mettre en œuvre un tel projet international, car pour pouvoir emprunter des œuvres, les exigences techniques sont strictes.
Que la Pologne ou les pays scandinaves souhaiteraient accueillir, eux aussi, dans leur musée.
Reportage de Marielle Vituro à Vilnius en Lituanie. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.